France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie-Jo et les deux Bénédictes.
Bonjour Cécile.
Bonjour. Cécile.
2000 prix littéraires sont attribués chaque année en France, mais très peu sont décernés par des lecteurs anonymes, comme c'est le cas par exemple pour le prix Goncourt des lycéens ou le grand prix des lectrices de Elle. Et dans cette catégorie, il y en a un qui se distingue dans la vie littéraire locale, c'est le prix du roman Sésame. Un prix original puisqu'il sélectionne des livres chez des petits éditeurs, de diffusion modeste en tirage, mais pas forcément évidemment en qualité. Ce prix a été décerné en grande pompe à Paris en mars dernier. On en parle en deuxième partie de cette émission avec Lorelai Richard, chargée des activités culturelles de l'antenne de Sésame, Pays de la Loire. Et savez-vous ce que sont les phalins ? Les phalins, c'est une roche sédimentaire composée de nombreux débris de coquillages et il leur a fallu 10 millions d'années pour se constituer. Alors direction Douai-la-Fontaine pour une visite au mystère des phalins, une ancienne carrière de pierre de phalin. La pénombre, 13 degrés, des puits d'extraction de près de 20 mètres de haut, une scénographie époustouflante entre jeux de lumière et ambiance sonore pour découvrir l'histoire du site et les bouleversements géologiques qui l'ont vu naître. Avec nous en studio, Morgane Postec, responsable du site. On commence tout de suite avec vous, Bénédicte. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
La popularité du site des Phalins ne fait que croître. Ouvert depuis 2014, il a accueilli en 2025 71 000 visiteurs, Bénédicte.
Effectivement, Cécile. Morgane Postec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du site du Mystère des Phalins. Qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors, Mystère des Phalins, en fait, c'est une ancienne carrière de pierre, ancienne carrière d'extraction de phalins, comme vous l'avez dit. Et à l'intérieur, vous découvrez une scénographie, donc plein de jeux de musique, de lumière, qui vous explique l'histoire du phalin. On remonte le temps il y a 11 millions d'années, quand la mer était présente à Douai-la-Fontaine, et on vous présente la faune et la flore qui y existaient. Et puis, on revient aussi sur le travail des carriers qui ont extrait cette roche. Donc, tout ça grâce à un apport très artistique, très poétique, qui vous raconte toute cette histoire.
Au Mystère des Phalins, c'est un voyage dans le passé, très poétique. Un travail de la compagnie Lucie Lhomme. C'est comme si on rentrait dans le ventre de la Terre. Parlez-nous de cette scénographie.
Alors, cette scénographie, elle est en place depuis 2014. Vous avez 12 mises en scène à découvrir. 12 mises en scène qui ont été réalisées effectivement par Lucie Lhomme, en direction artistique, qui après refont travailler des artistes, vraiment chacun spécialisé dans leur partie. Donc, des ingénieurs, enfin des artistes qui sont spécialisés en lumière, d'autres qui sont en projection, en reconstitution. Donc vous allez découvrir tantôt des méduses reconstituées en fibres qui sont suspendues par le haut des caves, une projection qui va vous montrer la savane qui bordait la mer des Phalins. Et puis après, vous allez traverser le fossile d'une baleine. Voilà, autant de réalisations artistiques.
Mais évidemment, ça a bougé depuis 2014.
Oui, tout à fait, puisque tous les 2 ans environ, on peut proposer des nouveautés à nos visiteurs. Donc on va toujours rester dans la même thématique, on garde l'existant qui fonctionne, mais on apporte des nouveautés. Donc soit on va vraiment apporter quelque chose de vraiment nouveau dans ce parcours, ou bien on va prendre quelque chose qui fonctionne peut-être un peu moins bien, ou sur lequel on a des retours de nos visiteurs, et on l'améliore, toujours en concertation avec les Lucie Lhomme.
C'est toujours Lucie Lhomme qui s'occupe de vous ?
Toujours.
Lucie Lhomme, c'est une compagnie locale ?
Oui, ce sont 3 personnes qui sont situées à Angers, basées à Angers.
Ces galeries, elles ont été creusées d'abord au XVIIIe siècle par le travail des hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette extraction ?
Alors, il y a toujours eu, en fait, depuis très longtemps, le fait de creuser la roche à Douai-la-Fontaine. Alors, c'était surtout pour y habiter, pour utiliser les maisons Troglo, comme beaucoup connaissent. Et au XVIIIe siècle, il y a eu l'apport du pied de rosier qui s'est développé considérablement à Douai-la-Fontaine. Donc, ça a ramené beaucoup de main-d'œuvre.
Du quoi, pardon ?
Du pied de rosier, des pieds de rosier.
Ah, ok.
vraiment sur tige. Et du coup, ça a créé beaucoup d'emplois. Donc, ça a ramené beaucoup de personnes à Douai-la-Fontaine. Donc, ces gens-là, il a fallu les loger. Or, jusque-là, tous les Douaissins, eux, habitaient en cave. Donc, ils se sont dit, bah, plutôt que de creuser pour faire nos maisons comme on fait nous, on va creuser pour extraire la pierre et construire les maisons en surface pour ces gens qui viennent travailler. D'où l'intérêt.
D'où les carrières.
D'où les carrières.
Et alors, elle est comment, cette pierre de Falun ?
Alors, elle est assez friable, hein, puisque quand on la touche comme ça, elle est friable. Mais pourtant, les carriers, eux, quand ils la débitaient, la laissaient à l'air libre. Et une fois au contact de l'air libre, la roche durcit. Donc, ça fait une très bonne pierre de construction, puisqu'en fait, elle fait un peu effet d'éponge. C'est-à-dire qu'elle va se gorger d'eau s'il y a de l'eau. Mais dès que les températures s'adoucissent, l'eau s'évacue tranquillement. Et donc, ça fait une bonne pierre de construction, surtout dans les soubassements. À la différence du tuffeau, où souvent, l'eau fragilise la roche.
Ah, ça fait des maisons humides, du coup, le fait qu'elles se gorgent d'eau ou pas ?
Pas tant. Non. Puisqu'après, du coup, c'est retravaillé. Aujourd'hui, il y a l'isolation qui va avec.
Mais ça, ce ne sont pas des carrières à ciel ouvert ?
Non, est sur des carrières souterraines. C'est vraiment la particularité de toute manière de notre région, hein, que ce soit dans le tuffeau ou dans le Falun. On est vraiment en carrière souterraine, c'est-à-dire qu'au début, au XVIIIe siècle, ils étaient agriculteurs. Donc, ils ont fait une petite ouverture dans leur champ, 1 mètre de large à peu près, et ils sont rentrés dans la roche par le haut, en creusant en évasant jusqu'à atteindre la nappe phréatique. Donc, ils ont creusé sur les 20 mètres de hauteur de roche qu'on a à Douai-la-Fontaine. Et les pierres étaient évacuées par le haut de ces caves grâce à un treuil revendu. Et une fois qu'ils avaient terminé d'extraire, ils refermaient l'ouverture avec des blocs de pierre. Ils remettaient de la terre par-dessus et ça leur permettait de garder les deux activités, agriculteurs à la belle période et carrier l'hiver.
C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité. C'est ce qui fait la spécificité justement de ces caves qui sont très exceptionnelles dans leur forme.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des caves cathédrales. Et c'est vrai que quand on rentre dans la première enfilade de caves au Mystère des Falun, on comprend tout de suite le mot.
Elles ont une forme un peu de bouteille.
Elles ont une forme de bouteille, une forme d'ogive. En fait, ça, c'est parce qu'ils rentraient par une petite ouverture, mais il y avait l'intérêt d'extraire un maximum de pierres. Donc, on creuse en évasant, et ce qui donne cette forme. Oui.
Ça veut dire que quand on est sur la terre, on ne voyait pratiquement pas ces mines.
Très peu.
Ça veut dire que les gens continuent à cultiver et qu'il y avait juste un tout petit passage pour que l'homme et la pierre puissent sortir.
Exactement, qu'ils identifiaient pour ne pas qu'il y ait de problème.
Donc, on a dit que le Falun s'était constitué grâce à la mer qui était dans le Douaissin jusqu'au...
Alors, en fait, elle est restée à peu près 3 millions d'années, cette mer. Donc, c'est ce qui a donné le temps à la sédimentation de se construire. C'est tout le reste de sable, de coquillages, de restes d'animaux, aujourd'hui ce qu'on appelle des fossiles, qui se sont emmagasinés et qui ont créé cette roche.
Et donc, dans ces immenses caves cathédrales, vous projetez comme des... Ce n'est pas des diapositives, d'ailleurs, pas du tout. C'est un autre système. Des images qui bougent et qui nous racontent l'histoire de cette mer qui était là, puis l'histoire des paysages qui ont évolué au fil des siècles, des millénaires.
C'est ça, jusqu'à arriver par l'utilisation de l'homme. En fait, ce sont des projections, la vidéoprojection, un petit peu comme du mapping. Ce qu'on voit beaucoup, c'est la mode, on en voit pas mal sur les extérieurs. Là, c'est la même chose, même réalisation, mais avec vraiment une réalisation artistique d'une personne qui est spécialisée là-dedans. Donc, il prend des sources scientifiques et puis il apporte vraiment de l'artistique, et ce qui rend les projections vraiment différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on est dans quelque chose de réel et de scientifique, mais avec un apport artistique, donc ça nous plonge un petit peu dans l'imaginaire aussi, ça laisse... Voilà, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, et puis si on a envie d'imaginer d'autres choses, on imagine.
Donnez-nous envie d'y aller justement, parce que c'est ça ce qui fait la spécificité de cet endroit, c'est qu'il n'y a rien à lire. Il y a juste à ressentir, à regarder.
Les seules choses à lire sont des gravures, un petit peu de gravures qui sont vraiment directement à même la paroi de Falun pour vous donner des petites indications sur l'histoire et sur les lieux. Et après, vous vous baladez et il n'y a rien à lire. Il n'y a pas de panneau, on n'est pas dans un musée, on est vraiment dans un parcours sensoriel. Donc, vous vous laissez porter à regarder les projections, à écouter la musique qui vous suit tout le temps, les bruits des animaux. Tantôt, vous entendez le bruit de la baleine, vous entendez les bruits des singes. Voilà, donc ça vous transporte. En plus, comme vous êtes en cave, les téléphones ne fonctionnent pas. Donc, il n'y a personne qui va vous déranger.
Il n'y a pas de perturbation.
Non.
À partir de quel âge la visite ?
Il n'y a pas d'âge. Tout le monde vient, il y a juste à prévenir les plus petits, surtout la tranche 2 ans qui est un petit peu difficile, que Ils vont rentrer dans un milieu un peu sombre, qui a la musique qui les accompagne dans tout le parcours, et ça se passe super bien.
71 000 visiteurs, comment vous faites? Vous n'êtes pas ouverte toute l'année?
On est ouvert de février, début des vacances de février, à la fin des vacances de la Toussaint.
Ça veut dire que l'été, il y a du monde.
L'été, il y a du monde. Juillet, août, c'est bien entendu notre plus grosse période, avec surtout les deux premières semaines d'août, où il y a beaucoup de fréquentation. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez faire la visite et que vous avez un peu peur d'être tout seul, venez sur les périodes où il y a du monde ou les périodes de vacances. Puis si vous aimez bien être seul, ben venez en dehors de ces périodes-là et là, vous allez trouver votre bonheur. C'est pour ça qu'il y a le bonheur et pour tout le monde.
Quelles sont les nouveautés alors que vous nous proposez pour
cette
année?
Alors là, en 2026, on a accueilli une nouveauté qu'on appelle l'envol des fossiles. Elle se situe entre deux mises en scène qui étaient existantes, dans deux caves qui n'étaient pas encore exploitées. Donc on a une double utilité artistique avec la projection sur la paroi d'oursins et de la fossilisation des oursins, qui en fait d'un coquillage qui se décompose, s'envole finalement et puis constitue une dune marine, constitue le phalin. Et puis aussi des moulages qui sont incrustés directement dans les parois de phalin. Donc là, vous avez vraiment deux techniques artistiques qui sont utilisées.
Et par ailleurs, vous allez faire une exposition?
Oui.
Sur
les... Alors, le titre, c'est Carrière Carrier, qui sera visible à partir du 20 juin jusqu'au 20 septembre, à la fin des journées du patrimoine. En fait, on va revenir sur les différentes carrières présentes en Anjou, les différentes roches présentes en Anjou, et l'utilisation de ces carrières, la manière dont elles ont été creusées, voilà, sur toute l'histoire des carrières qu'on a sur notre territoire.
Parce qu'elles n'ont pas toutes servi à faire de la construction.
Tout à fait. Non, il y a eu plusieurs utilisations, champignonnières. Aujourd'hui, c'est réutilisé en chambre d'hôte, en restaurant, en site de visite. Voilà, rien n'est perdu, tout est transformé.
Tout se transforme.
Exactement.
Morgane Postec, merci.
Merci.
Alors, le mystère des phalins, c'est vraiment, je dois le dire, le gros coup de cœur de toute l'équipe. Hein. On l'a dit, c'est pour les petits et les grands. On a fait vraiment... Alors nous, on a fait waouh quand on a vu le truc. On a été impressionnés par l'esthétique, la magie. C'est magnifiquement conservé. La scénographie est très, très soignée. Et comme Bénédicte l'a dit, c'est pas un musée, c'est vraiment une promenade. On fait maintenant, avant de parler du prix littéraire Sésame, une petite pause musicale avec la très belle chanson d'une angevine, Cégibette, une chanteuse angevine. Donc on écoute Shed of Tears qui a été enregistrée au Conservatoire d'Angers.
Show me all your envious sorrows, all you get it. Why I hanger on these dark fruits and of this flame? Flowing blood, we're hooked in this bread, but it teaches our fruit. Now I need peace in my head. Now I need peace. Show me all your endless sorrows, are you getting? Why I hang around this dark root and of this flame? It may take some time, I'm used to it now. As long as you're near to me, I can let go of things that hurt me. Grow stronger and freer. Even if the past dies and left me, some traces grows gone from me to suffer. I know it. I know it. Show me.
culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Franche Culture continue avec le prix littéraire Sésame, un prix atypique décerné par les lecteurs et qui met en valeur de petites maisons d'édition. Il faut préciser que le Sésame est un réseau national piloté par des comités d'entreprise et pas du tout le centre hospitalier Angevin. Marie-Jo, vous êtes notre lectrice insatiable et ce sujet vous a tout de suite passionnée. Vous avez invité Lorelai Richard, chargée des activités culturelles de l'antenne régionale du Sésame.
Lorelai Richard, bonjour.
Bonjour.
Avant de nous parler du fonctionnement atypique de ce prix au sein de la Fédération Sésame, quels sont les lauréats 2025?
Alors, pour le prix roman, nous avons Cyril Gély et son roman Le dernier thé de Maître Soho, qui a été vraiment très très apprécié par tous les lecteurs. Et pour le prix BD, nous avons la BD donc Bobigny 1972, écrite par Marie Bardot-Vaillant et Carole Morel.
Oui, Lorelai et Richard, nous allons chacune donner notre avis sur les deux livres primés. Mais avant, comment s'organise ce prix sur une année ?
Alors, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui met en situation énormément d'acteurs. D'abord, nous avons un comité de lecture qui est composé de différents membres. Alors, il y a des élus de CSE, de comités d'entreprise, donc d'entreprises différentes, des membres de bibliothèques, de médiathèques, des passionnés de lecture. Enfin, voilà, il y a un petit peu tout ce monde-là, tous rassemblés par la passion lecture. Nous lisons, à l'année à peu près, je dirais, 80 romans qui sont, comme vous l'avez très bien dit, issus de petites et moyennes, je précise, maisons d'édition françaises ou francophones, du moins. On met l'accent sur la grandeur de ces maisons d'édition qui sont toutes indépendantes.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Ça nous tient à cœur.
C'est un sujet intéressant.
Ce qui nous a intéressés dans le
sujet
aussi.
Voilà. Vous faites bien de me recadrer parce que je pourrais en parler pendant des heures. Une fois que les lectures sont faites, on fait une sélection. Avec des débats plus ou moins houleux, évidemment, mais une sélection de 10 romans que nous présentons ensuite à tous nos lecteurs. J'en parlerai un peu plus tard si vous le souhaitez pour savoir qui sont ces lecteurs, effectivement.
Oui.
Une fois que la sélection est présentée, nous nous rapprochons des auteurs en question pour organiser des rencontres avec les lecteurs qui sont très appréciés. Tout au long de l'année, nous proposons différentes activités autour de ces romans.
Combien de départements en Pays de la Loire participent ? Si j'ai bien compris, il n'y en a que 2.
Alors, dans la sélection, dans la création des prix, effectivement, il n'y a que 2 départements par souci de logistique. Nous mettons l'accent, sur l'importance du présentiel dans le choix des BD, des romans, parce que comme je l'ai dit, les débats sont importants. On aime bien parler en profondeur de nos choix, de nos sélections. Donc on est basé sur Nantes et Angers, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Par contre, en termes de lectorat, on parle bien de tous les pays de la Loire et même, ça va au-delà des pays de la Loire, c'est bien au national.
Voilà. Et combien il y a de bibliothèques en Maine-et-Loire ? Il y en a 30, si j'ai bien lu.
C'est ça,
lu.
Qui participent...
30 bibliothèques ?
Oui, tout à fait. Et à peu près 65 entreprises
Alors,
seulement en Pays de la Loire, parce que là, on ne va pas parler du national, ce serait bien trop important. Mais en Pays de la Loire, il y a 65 entreprises qui participent.
Et comment votent les lecteurs, alors ?
Alors, jusqu'à il y a quelques années, les lecteurs avaient pour objectif de lire les 10 romans de la sélection. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, on a un petit peu de tout en termes de lecteurs. On a des lecteurs de bibliothèque qui ont le temps, qui s'investissent largement dans leur lecture et donc, grand bien leur fasse, ils lisent les 10 romans. Par contre, les lecteurs d'entreprise, eux, ils n'ont vraiment pas le temps. Les romans ne circulent pas très bien forcément, donc... On les invite à lire 3 romans au minimum. Alors, s'ils peuvent lire les 10, tant mieux. Vraiment, c'est super. Et sur les 3 romans, sur les romans pardon, qu'ils lisent, on leur demande de faire un top 3. Ils vont choisir quel est le roman qui va arriver en premier, en deuxième, en troisième. Et en fonction des retours que nous avons, c'est comme ça qu'on fait le lauréat.
Et combien il y a eu de votants cette année alors ?
Alors ça, c'est toujours un chiffre un peu traître parce que cette année, enfin donc en 2025, il y a eu 3500 votants à peu près.
Ah oui, c'est impressionnant.
Mais il faut considérer...
3500 en Pays de la Loire.
En Pays de la Loire.
Ah oui, c'est énorme.
Ah oui, oui. Alors ben non, justement, parce qu'il faut considérer qu'il y a à peu près le triple de lecteurs. Il y a seulement voilà, le tiers des lecteurs qui votent. Alors que si chacun prenait le temps de voter, ben, y aurait encore davantage
de votants. On dit qu'il n'y a plus de lecteurs en France.
Ah, alors si,
c'est pas possible. Alors, Lorelai et Richard, parlons maintenant des éditeurs et des auteurs. Quels sont les critères de sélection des éditeurs ?
Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Vraiment, nous, on met en avant les maisons d'édition qui sont indépendantes. Surtout aujourd'hui où on se rend compte, vous le savez peut-être, que les très, très grosses maisons d'édition commencent à s'approprier de plus en plus le terrain de la lecture, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est notre critère principal, pardon, qu'elles soient indépendantes et qu'elles soient aussi petites à moyennes. Donc, on demande à ce qu'elle n'édite pas plus de 30 romans à peu près par an. Voilà.
Ça représente combien de maisons d'édition en France, ça ? Est-ce que vous avez une idée ?
Alors, j'aurais pas le chiffre exact parce que même les éditeurs avec qui je suis en contact sont incapables de le dire eux-mêmes. Il y a tellement de mouvements. Oui. De rachat ou alors de fermeture. Enfin, c'est en perpétuel mouvement, mais il y a moi, je dirais pas plus de 200.
Pas plus de 200 en France.
Je me trompe peut-être, mais ça bouge tellement. Oui, pardon.
Le petit pavé en Anjou peut faire partie de votre sélection ?
Alors, là aussi, chaque maison bouge tellement vite que, en fait, moi, chaque année, je redemande systématiquement à chacun est-ce que vous faites toujours, vous remplissez toujours ces conditions-là ? Si oui, vous pouvez participer au prix. Sinon, désolé, mais on va laisser la chance à d'autres. Voilà.
Et les auteurs, vous faites des rencontres, des débats, vous en avez organisé ?
Oui. Alors, on essaye de rencontrer chaque auteur, ou presque de la sélection. Alors, bien sûr, il y a des contraintes. Alors, les auteurs ont en général tous un métier à côté, donc il faut que ça puisse coïncider avec leur emploi du temps. Ils peuvent habiter plus ou moins loin aussi, donc on va se fier à la distance, plus ou moins longue pour pouvoir les rencontrer, mais on essaye de tous les rencontrer. Si ce n'est pas possible, on demande à nos collègues donc du national en Bretagne, en Grand Est, à Paris, etc. pour organiser les rencontres eux de leur côté. Et nous faisons aussi des webinaires, donc des rencontres en ligne, des entretiens où tous les lecteurs peuvent regarder, assister à ça depuis chez eux.
Lorelai et Richard, dites-nous de quoi parle la BD primée Bobigny 1972 de Marie Badieu-Vaillante et Carole Morel. Parlez-nous de cette œuvre.
Alors, le sujet principal de cette BD est le procès de Marie-Claire Chevalier, qui, en 1972, a été jugée car... quel malheur, elle a avorté, aidée de sa mère. Il faut savoir que si elle a avorté illégalement, c'est parce qu'elle a été violée et qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Donc vous imaginez déjà tous les traumatismes qu'elle a pu subir. Et à l'époque, forcément, l'avortement était complètement illégal. Donc toutes les deux ont été très bien accompagnées par la très grande avocate Gisèle Halimi, que vous connaissez sûrement. Sans qui ce procès n'aurait pas eu la même portée puisqu'il a permis d'aboutir en fait au droit à l'avortement proposé par Simone Veil. Donc c'est un procès qui est vraiment très important. La BD permet aussi aux jeunes lecteurs d'avoir connaissance de ce procès parce qu'on n'en parle pas forcément dans les collèges, les lycées, etc. C'est aussi un devoir de transmission des parents vers les enfants parce qu'en général, cette BD, nous, on la propose aux adultes au salariés adultes, mais ils peuvent largement leur proposer à leurs enfants adolescents voilà, de la lire. Donc c'est une BD vraiment très très intéressante et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a été nommée, qu'elle a été lauréate.
Elle a été primée.
Oui, tout à fait.
En dehors du message passé, qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée ? Le dessin, le texte ?
Le dessin est très beau.
Oui.
Très très beau.
Le dessin nous replace complètement dans ces années-là. Si je pouvais vous montrer des images, je le ferais, mais il y a tout un travail sur le ton, sur la couleur un peu jaunie, orangée, pour nous replacer dans les années 70.
Ouais.
Les moments très sombres de la vie de Marie-Claire Chevalier sont eux aussi sombres dans la couleur. Il y a parfois quelques moments stressants lors du procès pour savoir est-ce qu'elle va être condamnée ou pas. Est-ce qu'elle va être soutenue ? Parce qu'il y a des... ce procès a fait écho à travers toute la France. On suit vraiment toutes ces étapes-là, ne serait-ce que par le dessin. Et puis, évidemment, oui, le texte est formidable.
Alors, et vous, Marie-Jo, avez-vous aimé le roman primé ? Là, on parle du roman « Le dernier thé de Maître Soho » de Cyril Gelly.
J'ai adoré ce récit poétique. Au cœur du Japon du 19e siècle, où la rencontre entre une jeune aspirante samouraï et un maître du thé oppose tradition et sagesse, violence et sérénité. De quoi s'agit-il ? On est au Japon en 1853. Une jeune fille qui s'appelle Ibuki refuse de prendre la succession de son père à la tête de l'usine de saké. Elle se rend à pied, déguisée en homme, chez un ancien samouraï. Elle veut apprendre avec lui la voie du sabre, mais Maître Soho lui apprendra la voie du thé, sans quoi un samouraï n'est rien. Parce que, je cite, « le sabre prend la vie, le thé lui la donne ». Fin de citation. Donc le ton est donné, ce roman est imbibé de poésie, d'instants de grâce. Et moi, surtout ce que j'ai aimé, étant grande consommatrice de thé, les passages sur la préparation du Gyokuro, classé quand même meilleur thé du monde.
Et c'est quoi le Gyokuro ?
C'est du thé vert.
Ok.
C'est un thé vert qui est le thé le plus rare au monde. L'histoire est magnifique, touchante, en plus, même si elle est prévisible avec ce titre, qui est donc le dernier thé de Maître Soho. On connaît la suite dès le début du roman.
On connaît la fin. Lorelai Richard, après tout ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce prix, avez-vous le sentiment que ce prix aide vraiment les petites et moyennes maisons d'édition à se faire connaître, à perdurer ? Parce qu'il y a, on l'a senti dans votre discours tout à l'heure, une certaine fragilité de ces maisons d'édition.
Oui, absolument. Alors, je ne vais pas vanter tous les mérites de Sésame dans le succès des maisons d'édition, mais je dois quand même le notifier qu'on a repéré de très beaux romans de petites maisons d'édition à l'époque qui sont devenues grandes maintenant. Et forcément, on est un peu fiers d'avoir participé à ce succès. Ça permet quand même d'augmenter leur vente de centaines, voire milliers d'exemplaires à travers toute la France, ce qui n'est pas rien pour ces petites et moyennes maisons d'édition. Souvent, elles ne sont pas prêtes à ça. Et puis, celles qui ont appris à travailler avec nous me réclament chaque année à participer, forcément, puisque ça leur donne une visibilité sur un certain nombre de lecteurs, quand même.
Alors, dites-moi, j'habite Angers. Une dernière question rapidement, parce qu'on doit terminer. J'habite Angers. Je voudrais participer au lire. Comment je fais ?
Alors, si vous êtes salarié d'entreprise, vous pouvez vous rediriger vers votre comité d'entreprise, s'il y a, pour savoir si il ou elle est adhérent à Sésame.
Oui.
Si c'est le cas, vous pouvez participer au prix.
Et si c'est pas le cas ?
Si c'est pas le cas, il y a de très nombreuses bibliothèques d'Angers et dans la couronne d'Angers qui participent au prix et qui seront absolument ravis de vous présenter tout ça.
D'accord. Deux solutions. Lorelai Richard, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir ce prix littéraire assez original.
Merci à vous.
C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Ou bien sûr en podcast, et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux, sans modération. Très très belle semaine à vous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.